Vous écoutez France Musique.
Les traverses du temps. La terre et la nature ont exulté ce soir sur France Musique. Soyez donc les bienvenus dans cette traverse du temps en compagnie de notre invité Christian Buzon, ingénieur agronome, grand scientifique, proche aussi de très grands chercheurs comme le cancérologue Maurice Toubiana, le professeur Christian Cabrol et aussi d'un grand chercheur de l'université de Houston qui est Nathan Bryant, passionné de Romain Gary et de Conrad. Christian Buzon est un lutteur acharné contre toutes les idées reçues, tout ce qui n'est pas vérifié par la science et tous les clichés concernant l'agronomie. Bonsoir Christian Buzon.
Bonsoir Marcel Quillévéré, je vous remercie de m'inviter. Je vais essayer en peu de temps de résumer quelques points. L'objectif n'est pas de choquer, même si effectivement ça pourra paraître des raccourcis. On laissera une documentation pour ceux qui veulent en savoir plus. Tout ce que je vais dire résulte en fait d'analyses, de travaux, de vérifications sur le terrain. Et donc, même si c'est à contre-courant des idées véhiculées actuellement, il y a derrière toute une argumentation solide, sérieuse, éprouvée scientifiquement.
Et qui nous rend très optimistes. Quand on parle de la terre en France, en particulier de la terre bretonne qu'on a tellement attaquée.
Oui, on peut dire que, en résumé, on a une forme de caricature. On a créé une légende à l'encontre de l'agriculture bretonne qu'on a assimilée à un ensemble d'horreurs écologiques, le revers de la médaille. Et finalement, bien quand on analyse en détail tout cela, les liens entre l'activité agricole, les élevages, les nitrates et les marées vertes, bien est absolument difficile à établir. Et de fait, la qualité des eaux et la qualité de l'environnement est bien meilleure que les légendes qu'on entretient à son sujet, données, cartes officielles à l'appui. Et c'est ce que je vais essayer de commenter un petit peu.
Eh bien, cette émission, donc, grâce à vous, va être un hommage à la terre et à ceux qui la cultivent. Et ce voyage agronomique et musical va commencer au Chili. Eh oui, ce qui va ravir les amateurs de Tintin, d'Hergé et de cette chose très drôle qu'on apprenait quand on était gosse, qui s'appelait le guano. Eh bien, on part au Chili avec une samacueca, une danse chilienne.
Thank you.
une samba cueca, une danse chilienne d'un compositeur qu'on ne connaît pas chez nous, Christian Buzon, Federico Guzman, un Chilien du 19e siècle. Et c'était interprété par la pianiste chilienne, elle aussi, Graciela Yacirri. Tout ça pour évoquer le guano. On n'est pas hors sujet.
On n'est pas du tout hors sujet. Le guano est un engrais organique.
On l'importait du Chili.
On l'importait du Chili, en Europe et aux États-Unis notamment. Et ça a servi d'engrais. Il y a des millions de tonnes qui ont été extraites.
C'était les oiseaux qui déposaient ça sur les rochers.
Beaucoup sur des îles, les îles Chincha notamment. Il y avait accumulation des déjections animales des oiseaux. Il existe aussi un guano de chauve-souris. J'avoue, j'en ai jamais observé moi directement. Mais ce qui est fondamental à comprendre, c'est qu'après Liebig en 1840, on a compris la nécessité absolue de fertiliser les terres et de restituer au sol les éléments minéraux que les plantes y prélevaient. Et ça, c'est une connaissance qu'un chimiste, en analysant les cendres, a pu effectuer. Lavoisier, avant d'aller à l'échafaud d'ailleurs, avait aussi commencé un traité de chimie agricole. Et le bouleversement de la compréhension de la nécessaire fertilisation pour assurer durablement la production, sinon les sols s'épuisent, se fatiguent, hein, et on a des campagnes pouilleuses et sans fertilité. Eh bien, la compréhension de cette fertilisation est une connaissance fondamentale qui, paradoxalement, ces dernières années, avec le regain d'autres considérations, tend à s'amenuiser et l'importance de cette notion est souvent fortement relativisée, voire oubliée. On est dans le désapprentissage des bases. Un agriculteur comprend très bien que si on ne met pas d'engrais, rien ne pousse. Or, les rendements n'ont fait que d'augmenter. Un quintal, pratiquement, tous les ans, ces 30 dernières années. Il faut donc, si on produit plus, fertiliser plus.
Ce qui ne va pas contre la fameuse écologie dont on entend beaucoup parler. Ça va au contraire avec.
Absolument, c'est bien la compréhension de cette nécessaire fertilisation pour ne pas la rendre excédentaire et maintenir dans les cycles biogéochimiques, je dirais, un équilibre correct, qu'il est nécessaire de se situer. Mais l'abandon de la fertilisation serait absolument une erreur.
Et donc, la terre, par exemple, de certaines régions comme la Bretagne, puisque c'est surtout là que vous habitez et que vous travaillez, la terre n'est pas dans un aussi mauvais état qu'on le dit.
Non, la terre a une grande diversité, ce qui permet d'ailleurs la qualité des produits agricoles. Je suis membre de l'association Produits en Bretagne. La qualité des produits est reconnue. J'ai emmené quelques échantillons ici pour
illustrer. Oui, je vois les bonnes galettes de Pont-Aven.
Mais la production agricole est de qualité. Les filières agricoles sont organisées. Les hommes se sont organisés pour que à la fois l'agriculture et la transformation et les produits de qualité viennent sur le marché. Donc on a des sols tout à fait fertiles et on opère un recyclage des déjections animales des troupeaux pour fertiliser les terres. Mais on n'a pas encore assez d'engrais avec ces retours de déjections animales. La ferme bretonne, d'une certaine manière, est déficitaire, absolument pas saturée, comme on le dit trop souvent. Et les engrais, on est obligé d'en acheter en Bretagne pour assurer le niveau de production en complément des déjections qu'on recycle.
On va se prendre un peu d'air marin, puisque vous vouliez qu'on écoute un grand compositeur brestois, Jean Crase, comme on dit en Bretagne, et Jean Cras, comme on dit ailleurs. C'est le trio pour violon, alto et violoncelle, le troisième mouvement par le trio Kappa. Et c'est vrai que c'est un peu d'embrun marin. Thank you. le trio Kappa, dans ce troisième mouvement du trio pour violon, alto et violoncelle de Jean Kraaz. Je rappelle les dates de ce compositeur, 1879-1932. Christian Buzon, je parlais de votre passion pour Romain Gary et Conrad, vos deux écrivains favoris. Et de là, au Québec, il semblerait qu'il n'y ait qu'un pas. Les Québécois disent d'ailleurs que s'il n'y avait pas d'océan, la Bretagne s'encastrerait très bien, quelque part du côté, je ne sais pas, de la baie des Chaleurs, dans le Québec. Romain Gary, Conrad, le Québec.
Romain Gary est l'écrivain de la liberté. Et il disait, partout où il allait, il emmenait des ouvrages de Conrad, parce qu'en fait, Conrad le dépaysait de lui-même. Lire deux pages, et puis ça y est, il était ailleurs. Moi, c'est ce qui se passe quand je lis effectivement du Gary, ou quand j'écoute certaines musiques, dont celle de Robert Charlebois. Et c'est vrai que cette immensité des territoires et des paysages qu'on retrouve dans les Amériques, que ce soit l'Amérique du Nord ou le Brésil où j'ai pu séjourner, sont l'occasion effectivement d'un dépaysement de soi-même et qui, à mon avis, est utile et fructueux.
Et vous vouliez qu'on écoute évidemment Charlebois.
Pourquoi pas.
Et quand il chante son Saint-Laurent, et c'est vrai que ça ressemble à un océan.
Hein. Eh oui.
On écoute Robert Charlebois.
J'habite un fleuve en Haute-Amérique, presque océan, presque Atlantique. Un fleuve bleu vert, Saint-Laurent. J'habite un grand boulevard mouvant, une mer du Nord en cristaux de sel, agile, fragile, belle et rebelle. Presque océan, presque Atlantique. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Tout plein d'animaux brillants, de caplans, de cap diamants, de baleines douces et de poissons volants. J'habite un estuaire souffrant, un vieux géant à court d'arguments. Faut vacciner même les marsouins, des barbouillés, bébés loufoques. Des grands lacs jusqu'à Tadoussac, il faut laver l'eau, laver l'eau, laver l'eau. J'habite un fleuve en Haute-Amérique, presque océan, presque Atlantique. Un fleuve bleu vert, Saint-Laurent. J'habite un grand boulevard mouvant, une mer du Nord en cristaux de sel, agile, fragile, belle et rebelle. Presque océan, presque Atlantique. J'habite un fleuve en Haute-Amérique.
Le fleuve Saint-Laurent, chanté par Robert Charlebois, un chanteur que vous aimez beaucoup. Mais alors, vous parliez de Romain Gary. Romain Gary et la nature, c'est quelque chose d'impressionnant aussi.
Oui, Romain Gary a été très impressionné par le roman de Rachel Carson, Un printemps silencieux, qui est d'ailleurs à l'origine de l'interdiction du DDT, qui lui-même a provoqué des millions de morts. Mais en tout cas, il était touché par le sentiment et l'intérêt pour l'écologie et pour la nature, puisqu'il a écrit le premier roman écologique qui s'appelle en fait « Les racines du ciel ». Où il y a beaucoup d'aspects d'ailleurs d'anticipation, y compris des conflits religieux, ethniques, etc. Et donc il a eu le premier prix Goncourt, vous savez que c'est le seul auteur qui a eu deux prix Goncourt, hein, avec la grande farce qu'il a menée sous le pseudonyme d'Émile Ajar ensuite. Et il a fini en disant « Vie et mort d'Émile Ajar, nous nous sommes bien amusés ».
J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que tous les matins bretons de la famille Buzon commençaient avec Jean-Sébastien Bach, c'est vrai ?
Oui, effectivement, nous nous réveillons sur le concert pour quatre pianos, tiré d'ailleurs d'une œuvre originale de Vivaldi, qui avait été repris par Bach. Et je trouve que le matin, pour faire sa gymnastique et commencer à s'étirer, ben c'est parfait.
. 19h32 sur France Musique, les traverses du temps en compagnie de Christian Buzon, l'ingénieur agronome. Et je vois Christian Buzon un livre que vous avez publié dans votre Institut scientifique et technique de l'environnement, dont vous êtes le président, qui s'intitule « Les nitrates et l'homme, toxiques, inoffensifs ou au contraire bénéfiques ». C'est un ouvrage de Jean Lirondelle. Mais ce qui frappe, je le feuillette et je tombe effectivement sur deux préfaces, l'une du professeur Cabrol et l'autre du professeur Toubiana. Et c'est assez étonnant, effectivement, parce qu'ils parlent, eux, qui sont des grands médecins quand même, des effets bénéfiques des nitrates, et on n'en parle pas assez finalement.
Oui, j'ai eu une grande chance de rencontrer, de côtoyer et d'être soutenu par Christian Cabrol et le professeur Maurice Toubiana. On a organisé deux colloques, un en 2000 et un en 2011, colloques internationaux. Clairement, les nitrates font l'objet d'un discrédit absolu, mais totalement injustifié et erroné. Les nitrates ne présentent que des effets bénéfiques et ce, sans limite de dose. Déjà, le professeur Apfelbaum, qui est un des plus grands nutritionnistes français, avait signalé cela dans un livre en 1999, « Les nitrates, une norme au pied d'argile ». On ne comprend pas pourquoi les régimes à base de légumes bourrés de nitrates, ils sont entre 10 et 100 fois la norme sur l'eau potable, sont tous reconnus comme bénéfiques pour protéger des cancers et pour les maladies cardiovasculaires.
Alors, là, je vous arrête parce que j'ai un livre américain que vous m'avez apporté aussi, de Nathan Brown, sur la betterave, justement.
Oui, absolument.
Ils sont en train de se rendre compte du bénéfice et de manger de la betterave rouge.
On s'aperçoit que maintenant, les bénéfices dus aux légumes sont dus aux nitrates, puisque quand on enlève les nitrates des légumes, eh bien, on n'a plus ces effets. Et il y a eu un prix Nobel en 1998 et plus de 100 000 publications scientifiques, médicales, pharmaceutiques pour apporter à l'organisme cette fabuleuse molécule qu'est l'oxyde nitrique, un atome d'azote, un atome d'oxygène. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les nitrates et les nitrites, finalement, qu'on ingère par voie alimentaire, sont des précurseurs de cet indispensable NO. Le prix Nobel a été attribué parce que, effectivement, on a découvert que nos vaisseaux élaboraient, à partir des nitrates et des nitrites notamment, cette molécule NO qui régule la circulation sanguine. Et par là, si vous voulez, c'est une vraie révolution médicale, puisque tant à titre préventif que curatif, la consommation de nitrates, précurseur de NO, est indispensable. Et ce, sans limite de dose.
C'est là qu'on voit le combattant que vous êtes pour la vie.
Eh oui.
Et je comprends mieux, à un moment, vous me disiez, il faut qu'on écoute le Messie de Handel. Et bien voilà, on va écouter, puisque c'est tout à fait ça, non ? For unto us a child is born, voilà qu'un enfant est né parmi nous, et quel enfant. On écoute à Ching Tous avec le concerto Köln sous la direction de Laurence Equilmet.
For unto us a child is born, unto us
Laurence Equilbet, le chœur Accentus et le concerto Köln dans cet extrait du Messie de Handel. Christian Buzon, votre modèle, c'est Tolstoï. Mais avant qu'on parle de Tolstoï, puisqu'on a parlé de la terre bretonne, il y a cette histoire d'algues vertes qui reste un grand mystère pour moi. Et peut-être que les causes ne sont pas là où on le croit.
Oui, on a beaucoup fait. Il y a eu beaucoup de travaux à partir de modélisation et très peu de données, de mesures et d'observations réelles du phénomène. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de lien entre l'activité agricole, les élevages et la manifestation sur quelques baies sensibles. Et le lien entre l'azote et la prolifération des marées vertes n'est absolument pas établi. Donc, il y a probablement, et ça j'ai récemment découvert un ouvrage d'un océanologue qui s'appelle Joël Kopp, que c'est la courantologie principalement qui détermine les chouages ou non, et probablement aussi un déficit dont les causes sont inconnues, mais des brouteurs, puisque ces algues sont comestibles, et normalement dans la chaîne alimentaire, elles sont réutilisées. On ne comprend pas comment les brouteurs habituels de ces algues, c'est comme des vaches, mais dans le milieu,
le milieu marin.
Donc c'est une faune qui consomme, et notamment
les crustacés, les bigorneaux.
Les bigorneaux surtout.
Oui. On n'en trouve plus en Bretagne.
Les os, exactement. Eh bien, c'est ce que dit cet océanologue.
Les moules.
Donc c'est un phénomène écologique, mais qui est très probablement dû à un déficit de la faune brouteuse. Ces algues ne sont pas dangereuses en elles-mêmes. Elles sont, si on les récoltait, il y a des gens qui manquent d'algues qui pourraient les valoriser, que ce soit en alimentation animale, en alimentation humaine. On en fait pousser en Israël parce que les entreprises bretonnes en manquent. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir interdire la récolte parce que sinon, certains pensent qu'on va entretenir le phénomène. Donc, si vous voulez, c'est une tâche et une casserole qu'on veut mettre au débit de l'agriculture bretonne. Ça justifie évidemment tout un tas de mesures, tout un tas de contrôles et un mal-être aussi des agriculteurs à qui on veut renier finalement les bases de la production agricole qu'on remet en cause.
Je comprends mieux votre admiration pour Tolstoï parce que c'était un sacré lutteur lui aussi. On va écouter justement de la musique qu'il aimait. Oui. On ne le sait pas assez, il jouait du piano.
Oui, il jouait du piano à quatre mains avec son épouse, ses filles, etc. Oui.
Et sa femme avait coutume de dire qu'il pleurait en écoutant l'andante du quatuor à cordes numéro 1 en ré majeur opus 11, ce célèbre andante que nous écoutons par le quatuor à cordes de la Philharmonie tchèque.
Thank you.
Le quatuor à cordes de la Philharmonie tchèque dans cette andante du quatuor à cordes numéro 1 de Tchaïkovski. En vous écoutant, Christian Buzon, l'agronome, j'ai plutôt l'impression qu'au lieu de vous accrocher à des certitudes, vous êtes toujours en train d'ouvrir des portes et de nouvelles pistes pour chercher, toujours chercher. C'est un peu Tolstoï, ça aussi, votre modèle.
Ouais. C'est-à-dire qu'il est important de s'étonner, on a le droit d'imaginer, mais il faut ensuite vérifier. Ce que j'apprécie chez Tolstoï, c'est cette exigence, cette passion de rigueur et cette recherche infinie de la vérité.
Et vous êtes proche de sa famille?
Alors, il se trouve que je suis membre de l'association des Amis de Léon Tolstoï, et donc j'ai la chance de côtoyer sa présidente, Colette Tolstoï, et puis aussi son fils, qui est l'arrière-petit-fils.
Colette Tolstoï est qui dans la famille, c'est là?
Ah ben, c'est l'épouse du petit-fils de Léon Tolstoï, et donc Dimitri, qui est son fils, fait aussi partie de cette association. Et ce que j'ai découvert dans Tolstoï, c'était cette exigence de vérité, cette volonté de se documenter. Quand il est décédé, plus de 20 000 ouvrages chez lui, à Yasnaya Polyana, annotés de sa main avec des questions dans la marge, etc. Et puis j'ai découvert qu'il était agronome aussi, qu'il s'intéressait à la fois aux choses de la nature, qu'il décrit d'ailleurs très très bien, nature d'ailleurs modifiée par l'homme, et puis aussi s'intéressait aux hommes et aux acteurs. Il était un des premiers à s'inquiéter du sort réservé à ces malheureux ouvriers agricoles dans les domaines, et il souffrait d'ailleurs d'en être le maître, et presque de droit divin. Et donc, en lisant notamment dans Anna Karénine le récit de Lévin qui va faucher aux côtés de l'équipe de faucheurs dans la prairie Kalinov, j'ai eu envie d'aller étudier les sols avec mon épouse Béatrice. Nous avons fait le voyage, bien sûr sur les recommandations et avec l'aide de l'association et notamment de Madame Colette Tolstoï, et nous avons étudié les sols. D'ailleurs, le 8 avril, je vais faire une conférence dans le cadre de l'association des Amis de Léon Tolstoï sur les sols de Yasnaya Polyana.
Стакану белые руки прижимал при дороге сударушкой.
Un beau cœur populaire russe que nous dédions, Christian Buzon, à Colette Tolstoï, puisqu'elle voulait entendre une musique populaire russe, mais avec un grand compositeur qui l'accueillait souvent chez lui, oui. C'est Serge Rachmaninov, extrait des trois chants russes opus 41, Belle jour rose et blanche, le chœur russe Yurlov, l'orchestre symphonique de Moscou, sous la direction de Evgeny Svetlanov. Quand on vous écoute dans vos conférences aussi, on est frappé par l'énergie que vous faites partager à votre auditoire. En particulier, vous dites « arrêtons de déprimer ». Et puis surtout, les jeunes, donnons-leur le moral, oui. Sapristi, surtout à nos jeunes qui travaillent la terre, par exemple, oui, et oui, à tous oui. les jeunes. Et là, il y a un livre que vous êtes en train de traduire, qui est incroyable aussi. On a envie de le lire tout de suite en anglais. C'est un livre américain, toujours de ce professeur Bryant, sur la molécule NO, qui est, alors je connais rien, moi, l'oxyde nitrique.
Oui, effectivement, c'est une, je pèse mes mots, une révolution médicale. Le livre est sous presse. J'ai l'autorisation des auteurs de l'éditer. On va l'imprimer très prochainement.
Aussi, hein,
nous l'avons traduit. La traduction est faite. Nous avons fait une préface avec le docteur Jean-Marie Bourg, membre de l'Académie de médecine, et aussi le docteur Jean-Louis Lirondel, mes amis. On a fait une préface. Ce livre est renversant puisqu'il explique en quoi la molécule NO est indispensable à la régulation de la circulation sanguine et en quoi les nitrates et les nitrites que nous pouvons consommer en sont les précurseurs. Et ça explique le rôle préventif et curatif qu'a cette molécule pour les maladies cardiovasculaires et en résumé, la kyrielle de maladies dites liées à l'âge. Donc on a là presque une panacée, je ne veux pas prononcer le mot de façon définitive. Et d'ailleurs, l'auteur parle de molécules miracles qu'il convient de renforcer par un régime adapté, par et notamment le régime crétois méditerranéen qui est tout à fait, et qui est d'ailleurs très bien décrit dans les livres de Jean-Marie Bourg chez Odile Jacob. Donc, de fait, de l'exercice physique assez régulier, un régime adapté, et puis un certain nombre de pratiques qui sont expliquées, vont renforcer dans l'organisme ce NO, qui est une quasi-vitamine. Donc, au lieu de s'assurer de limiter les teneurs en nitrate dans l'eau, la communauté européenne devait s'assurer que nous consommons tous suffisamment de nitrates, notamment à travers les légumes.
Merci beaucoup pour nous donner tant d'énergie, merci tant d'optimisme aussi, Christian Buzon. Alors, une petite madeleine pour vous, on revient à Robert Charlebois. Vous teniez tellement à cette chanson, c'est immensément.
Le petit gratte mon ukulélé, le grand voudrait des gants de hockey. Un jour, ils voudront s'en aller. Ok, ok, ok. Ils ramèneront à la maison des bébés ronds qui auront mon nom. Dans ma cabane au Canada, il y aura toujours nos deux petits gars. Être aimé par quelqu'un qu'on aime, la vieille rengaine américaine, c'est pas toujours des pêches à la crème, mais n'empêche que je vous aime quand même. Je sais qu'un jour, quand vous serez grand, vous me verrez plus au petit écran. dit à votre mère que je l'aimais tant, que je l'aimais tant immensément. Dites à votre mère que je l'aimais tant, comme dans les films en noir et blanc.
Le Québec à nouveau, Christian Buzon, mais on ne va pas finir par le Québec puisqu'on va repartir vers la Bretagne, toujours avec Jean Kras, notre compositeur brestois. Mais merci beaucoup de nous donner cet enthousiasme et puis surtout de donner de l'espoir aussi, parce qu'on sait que les agriculteurs, ce n'est pas facile.
Le pire n'est pas certain et au contraire, il y a plein de choses. Il faut redonner le moral, il faut relancer l'agronomie, le moral aux agriculteurs, leur expliquer que produire, c'est bien, que ça peut se faire et c'est déjà dans la qualité. Et que voilà, il y a un décalage complet entre le discours ambiant, y compris ce qu'on enseigne dans trop d'écoles, et puis la réalité du terrain, et il y a plein de choses à faire. Retroussons les manches.
Et disons que sur le site francemusique.fr, vous retrouvez dans la page des Traverses du Temps ces livres dont nous avons parlé en anglais et en français. Et on va se quitter avec de la belle musique marine, le concerto pour piano et orchestre, le dernier mouvement de Jean Kras. C'est Alain Jacquin au piano, l'Orchestre philharmonique du Luxembourg, sous la direction de Jean-François Antonioli. On va se quitter sur la musique de Jean Kras, ce troisième mouvement du concerto pour piano et orchestre. Et merci beaucoup, Christian Buzon, de nous avoir parlé aussi bien de médecine, de santé, de terre, de nature. C'était formidable. Bon retour en Bretagne, puisque vous partez tout de suite.
Oui, je repars tout de suite.
Pour faire cette émission avec nous, José Bernays, Emmanuel Rose, Sophie Salio-Marie, Martine Moni à la production, Swad Boukorsa l'a réalisé ce soir cette émission.